Semons le changement, un podcast pour défricher ensemble ces idées enracinées dans le milieu de l'agriculture urbaine à Montréal et tenter de planter quelques nouvelles graines. Nous discuterons des différents enjeux et tabous qui sont souvent passés sous silence pour initier la conversation et pour laisser la chance aux personnes concernées de s'exprimer dans un espace bienveillant. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Semons le changement, un podcast de l'Écho de la Pointe aux Prairies qui est un organisme à but non lucratif qui essaie un peu de sensibiliser et d'éduquer les gens par rapport à différents enjeux environnementaux. Je m'appelle Isabelle Garraud, je suis coordonnatrice à justement l'Écopap et je laisse mon invité se présenter.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, merci Isabelle pour l'invitation. Je suis Céline Duhamel. Dans le fond, dans ma vie professionnelle, je suis coordinatrice de Cultiver Montréal, qui est le réseau des agricultures montréalaises. C'est un réseau multisectoriel qui réunit l'ensemble des acteurs et des actrices œuvrant en agriculture urbaine du Grand Montréal. Puis, on travaille réellement en concertation avec toutes ces belles personnes-là pour développer l'agriculture urbaine et pour répondre finalement aux enjeux liés à l'environnement et à la sécurité alimentaire et à l'inclusion sociale par le végétal. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision et de mon analyse de l'éco-gentrification.
Oui, ben c'est dans le titre, donc les gens le savent, oui. c'est ça, en fait, je vais commencer par présenter justement le thème. C'est quoi l'éco-gentrification? Parce que j'imagine qu'il y en a que gentrification, ça leur dit quelque chose, mais pourquoi éco, tu sais? En gros, c'est le processus de gentrification qui suit le développement de projets en environnement ou en verdissement. Donc, ces endroits-là, où est-ce qu'il y a eu ces projets-là, représentent alors des milieux de vie plus sains, plus attrayants, qui amènent une population ayant des revenus plus aisés. Parfois, on assiste même à des évictions de locataires. En ce moment, avec la crise du logement, on voit beaucoup, beaucoup ça. Justement, ces locataires-là qui ont un revenu plus faible et locataires qui étaient là avant tous ces projets en environnement. Puis ça laisse place à cette population plus aisée. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas simplement arrêter le développement de ces projets, puisqu'ils apportent aussi une augmentation de la qualité de vie, mais on veut pas non plus encourager la gentrification des quartiers? C'est une question complexe qu'on va tenter de décortiquer aujourd'hui. Je vais commencer par une première question pour toi, et Céline, très générale et pourtant très complexe. D'après toi, qu'est-ce qui cause cette gentrification suite au développement justement de projets en environnement?
Effectivement, question très complexe. Je pense qu'une des premières choses peut-être sur laquelle il faut qu'on s'attarde, c'est de penser à c'est quoi un projet d'environnement. On est quand même dans un milieu urbain et donc forcément ça pose la question de quelle ville on parle. Aujourd'hui, c'est certain, aujourd'hui et en fait depuis quand même plusieurs années, c'est certain qu'on remarque l'ensemble des projets de rénovation urbaine résulte davantage de choix, disons, politiques, sans que réellement se pose la question de et l'humain dans tout ça, et l'humain acteur, où est-ce qu'il en est. Donc il n'y a pas une prise en charge globale, collective et unifiée de la question urbaine. Pourtant, il y a quand même différentes initiatives et différentes théories aussi qui a trait plus d'ailleurs au droit à la ville, qui est un grand concept que j'invite d'ailleurs tous les auditeurs et auditrices à aller regarder d'Henri Lefebvre et David Harvey, qui pose qui énonce le droit de revendiquer pour les citoyens et citoyennes leur ambition, leur désir, leur volonté quant à la création ou la co-création de leur environnement direct. Donc on parle d'environnement direct, naturel pardon, ou artificiel. Donc finalement, si cette dimension-là de droit à la ville n'est pas prise en considération dans la question de rénovation urbaine ou dans la question même de projet urbain, donc dans les projets d'agriculture urbaine, c'est sûr que c'est comme si on manquait quelque chose. C'est-à-dire qu'on va faire un décor, mais dans lequel il n'y aura que des spectateurs et il n'y aura pas des acteurs. Fait que, là, on voit qu'il y a un manquement là-dessus, et puis spécifiquement sur... c'est sûr que le fait de prendre en considération ce droit à la ville, ou d'être du moins à l'écoute des transformations sociales et des revendications politiques ou si on veut pas employer ce terme-là, revendication de comment est-ce que je désire vivre ma ville et pratiquer ma ville et sentir ma ville. Donc vraiment mettre en exergue tous les sens qui sont mobilisateurs. Ben, ça demande obligatoirement de réfléchir à la temporalité des projets. Mmh. Et donc d'avoir une espèce de transformation d'objectifs des projets. Et je pense que ça, c'est un des points extrêmement importants dans la question de comment est-ce qu'on perçoit les projets urbains et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils ne soient pas générateurs de gentrification. Il y a premièrement l'honnêteté dans nos objectifs de projet. Mmh. On peut avoir, ben, en tout cas dépendant de tous les choix politiques de chaque personne, mmh. mais mettons que si au moment du développement d'un projet, c'est assez clair qu'on veut revitaliser telle section de rue parce qu'on trouve que, je sais pas, il est délabré ou qu'il y a une population qui ne correspond pas aux attentes qu'on voulait, mmh. mettons que c'est affiché clairement, on le sait, donc on n'est pas surpris de voir des systèmes de gentrification. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est quand on arrive avec des intentions de projet sans avoir eu cette mobilisation citoyenne mmh. Et cette écoute des attentes, et qu'on fait passer ça comme un projet citoyen.
Mmh. Dans ton premier exemple, justement, quand tu dis justement revitaliser un bout de terrain là, avec autour des personnes que c'est pas nécessairement la population visée, c'est drôle parce que ça fait penser comme s'il y avait certaines personnes qui avaient le droit d'avoir des espaces revitalisés et tu sais des beaux aménagements, puis d'autres dont on s'en fout s'ils restent dans leur disons-le comme ça, dans leur espace délabré. c'est choquant.
C'est extrêmement choquant, mais c'est certain. Puis attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de prôner, mais quand on regarde les différents projets, on voit qu'il y a vraiment des objectifs complètement différents. C'est sûr que c'est choquant comme propos de se dire, attends, est-ce que je suis en train d'assister à un projet dont l'objectif initial était de déplacer la population première, disons, sur cet espace. Mais en même temps, c'est la réalité. C'est qu'il y a des projets même qui s'en cachent à peine. Mmh. Si on regarde les gros projets de revitalisation ou de rénovation urbaine, donc notamment par le logement, donc par la création de nouveaux logements, de projets immobiliers, ben c'est certain que les promoteurs immobiliers, eux, ils ont une intention monétaire derrière. Mm-hmm. Donc, c'est là aussi où c'est extrêmement tendancieux. C'est parce qu'on voit la plupart du temps sur des terrains délaissés, ou en tout cas des terrains vagues, des projets naissants d'agriculture urbaine. La plupart du temps, ou en tout cas dans ceux que moi j'ai observés, ça vient souvent d'une initiative citoyenne, mm-hmm. de la population locale. Mm-hmm. Puis, une fois que là, ça fait automatiquement monter, disons, la valeur du terrain, parce qu'il y a une acceptabilité sociale, parce qu'il y a une mobilisation citoyenne,
parce que c'est plus beau, parce que
ça devient un espace nourricier, un espace de rencontre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se crée d'extrêmement intense, en fait, sur ces espaces-là. Et là, on se dit, ah, bah tiens, ce terrain qui, au départ, était juste une dump à déchets, d'un coup, devient autre chose. Mm-hmm. Et donc, ça fait grimper la valeur. C'est là où c'est un petit peu compliqué. Et très souvent, bah, quand ça fait grimper la valeur, les projets immobiliers arrivent à ce moment-là. Et là, bah, très très souvent, on va sur une bétonisation. On se dit, bah, merci bien d'avoir fait venir une autre population, ou en tout cas d'avoir stimulé un petit peu la vie de quartier. Maintenant, on remarque le potentiel de cet espace-là, on va créer un projet immobilier, et là, on va faire venir automatiquement une classe supérieure à la classe existante la plupart du temps.
C'est ça amène vraiment un problème qui s'inscrit vraiment dans une dualité de comme, tu sais, justement, la population locale, est-ce qu'on développe des projets qui vont faire en sorte d'améliorer notre milieu de vie, puis qu'on se sente mieux et tout, mais qui va aussi faire augmenter, tu sais, la valeur des terrains, justement, et juste comme le désir d'autres populations plus aisées de comme venir s'installer là, ou sinon on reste avec notre dump à déchets, genre, tu sais.
Ouais.
C'est vraiment, tu sais, puis je sais pas pourquoi, tu sais, des fois j'ai l'impression que quand les gens parlent, ils ont cette pensée-là que les gens qui vivent dans ces endroits-là, ça leur va d'habiter comme à côté d'une friche dévalorisée et tout. Des fois j'ai cette impression-là, puis C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Donc, c'est ça, t'as ce choix-là entre cette dualité-là de comme, est-ce que je mets de l'argent, de l'investissement, ben, pas nécessairement de l'argent, mais comme, ben, tu sais, du temps. Donc, ça a une certaine valeur, là. Tu sais, est-ce que je mets du temps pour, comme, justement, revitaliser mon espace de vie puis être mieux là-dedans, pour peut-être juste comme un moment temporaire avant que ça soit trop, trop cher pour moi ou que je doive aller ailleurs à cause de ça, tu sais. En tout cas, ça...
Mais ce que tu dis sur le... avoir cette impression que c'est comme si ça convenait à la population d'être à côté de terrains délaissés ou en tout cas d'espaces non agréables à vivre, c'est sûr que... Mais ça aussi, ça souligne vraiment, encore une fois, cette position dans laquelle on met la majorité des citoyens et citoyennes en tant que spectateurs de leur environnement. S'il n'y a pas cette conscience, et cette conscience va aussi avec toute une stratégie, mettons, pédagogique, ou en tout cas d'ouverture des possibles, en faisant tout un travail de discussion, de dialogue avec les populations auxquelles on s'adresse, en disant, mais regarde, toi, ce que tu vois dans tel arrondissement, ou dans tel quartier, ou... tel projet que tu as vu, tu peux le faire aussi dans ton quartier, même si tu as l'impression que ta friche est complètement délabrée à côté de toi, ou que ton carré d'arbre ressemble à strictement rien et que c'est juste un tas de terre. Parce que dans les projets que tu regardes et qui te donnent envie, bah ça a commencé comme ça aussi. Fait que de juste ramener ça et d'avoir toute cette... tout ce dialogue-là, et de donner les outils aussi. Donc c'est pour ça que le volet pédagogique, mettons, de l'agriculture urbaine n'est vraiment pas à mettre de côté, malgré ce qu'on peut voir de plus en plus, bah, en tout cas de plus en plus. On remarque que dans la vision agriculture urbaine, aujourd'hui, on s'intéresse davantage à l'agriculture dite commerciale, donc de production. Et là encore, tu vois, c'est extrêmement intéressant sur notre vision de notre environnement et de notre économie. De le penser juste économie monétaire et pas économie sociale ou culturelle. Il y a comme vraiment un décalage là-dessus. Et donc, oui, c'est ça. Donc, les projets qui sont mis en valeur en agriculture urbaine, en ce moment en tout cas, sont majoritairement des projets commerciaux. Les projets plus agriculture sociale, collective, pédagogique, sont un peu plus laissés de côté. Puis... c'est une réalité qui est même au-delà de l'agriculture urbaine. Dans le milieu communautaire, on le voit. Il y a une mobilisation cette fin d'hiver, justement, sur la précarité des organismes en milieu communautaire. Et on sait qu'il y a de l'argent. Mais c'est juste que ça va pas à ce que nous, bah, en tout cas à ce que toi et moi, on pense comme essentiel. Et on pense comme essentiel, pas parce qu'on est juste à travers notre chapeau individuel, mais parce qu'on travaille sur le terrain avec des personnes avec qui on discute.
On sait c'est quoi les besoins.
Exactement. Puis ça passe définitivement par ce travail de dialogue, de concertation et de mobilisation aussi. Et donc, pour répondre à la question de est-ce que ces populations-là acceptent d'être à côté de décharges ? Non, définitivement pas, non. Mais c'est juste que la plupart du temps, elles n'ont pas les clés, ou en tout cas, elles n'ont pas la conscience que, bah oui, elles peuvent être actrices de changement aussi.
Ouais, il y a ce truc-là. Ben, moi, j'ai un milieu pauvre, là, puis c'est ça, j'ai fait mon petit bout de chemin, là, mais quand même. C'est dans le sens où on dirait que quand t'es dans un milieu plus pauvre, comme t'as dit justement, tu sais pas que c'est accessible comme ce changement-là. Puis tu penses même pas que c'est. Tu le vois même pas comme un choix, en fait. C'est comme on te répète un peu de façon indirecte que, comme, non, t'es né pour un petit pain, puis c'est correct comme ça. Toi, t'es comme, bon, ben ok, fait que je vais juste comme être à côté d'une décharge, puis genre, je vais faire avec, alors que comme vraiment tu... ben c'est ça, après ça, c'est pour ça que les organismes communautaires, souvent, ils ont une belle place, là, justement, pour comme amener ces gens-là à faire comme, non, tu mérites mieux, tu sais, genre, c'est correct de vouloir plus, puis c'est correct de vouloir mieux aussi, tu sais.
Exact, ouais, définitivement. C'est ça, c'est... Tu soulignes le milieu social et économique des porteurs de projets, des porteuses de projets en agriculture urbaine. Personnellement, moi, c'est sûr que bon, je viens d'un milieu médium, là, je dirais. Je ne suis pas ni aisée, ni pauvre, comme je suis Donc c'est sûr qu'à chaque fois que je commence à parler d'éco-gentrification, je me sens toujours très imposteur parce que je fais partie potentiellement d'une certaine classe sociale qui, à un moment donné, a évincé une autre classe sociale. Puis je trouve qu'en ayant conscience de ça, en l'acceptant, je ne sais pas encore si actuellement je l'accepte, honnêtement.
C'est un processus.
Mais, exactement, c'est comme tout un processus. Mais on dirait que je m'en sers davantage comme force en me disant, bah regarde, j'ai eu l'opportunité d'avoir un certain quotient culturel d'éducation, j'ai fait des études, ça m'a permis de structurer ma pensée, d'avoir des références, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, ça s'entend certainement à mon accent, je viens de France, donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir partir de France pour venir ici, pas pour des raisons économiques ou des raisons de fuite d'une situation difficile, vraiment par choix, donc c'est un énorme privilège. Et très longtemps, j'étais comme « Ah, je suis pas du tout la bonne personne pour parler de ce genre de choses. » Cela dit, grâce à tous les différents parcours que j'ai pu avoir et dans les différents projets dans lesquels j'ai pu m'impliquer, ça m'a permis en fait de voir différentes réalités. Et ce que tu soulignes, quand tu t'intéresses à des personnes qui viennent de milieux beaucoup plus pauvres que le tien... tu te rends compte que non, c'est pas du tout si évident, effectivement, de se dire oui, moi je suis capable de le faire. Fait qu'il y a un peu ce truc de se dire non, nous on est là pour t'accompagner.
Mais c'est toi le porteur du projet, c'est toi la porteuse du projet.
Exactement, c'est pas moi qui vais le faire à ta place, moi je vais te donner les outils, mais c'est à toi de prendre en main. Mais il y a aussi, c'est vraiment très très complexe parce qu'il y a un peu le truc de vas-y, maintenant je t'ai donné les cours où tu sais comment partir ton plant de tomate.
Ouais, mais je suis une mère monoparentale, j'ai 3 enfants, tu sais, j'arrive pas à joindre les deux bouts, faut que je fasse des heures sup.
T'sais. Exact. Ouais, ouais. C'est comme, peut-être que nous, notre rôle, c'est de se dire, je vais peut-être penser mon projet différemment. Peut-être que mes heures de bénévolat ou mes heures d'implication dans le jardin que je mets les samedis matins, mettons, c'est peut-être pas la meilleure heure pour rejoindre justement la mère monoparentale qui juste est en train de courir avec ses différentes machines, etc. Ou en tout cas sa laverie et autres. Fait qu'il y a aussi cette espèce de flexibilité que nous, on doit avoir. Et encore une fois, ça nécessite une écoute de ceux pour qui... et celles pour qui on impulse, mettons, les projets. On fait les projets, c'est faux, on fait pas les projets, on les impulse. On comme donne la base, puis ensuite on encourage, puis on accompagne autant qu'il faut, et on facilite aussi certaines choses, pour que ça paraisse moins énorme. Mais c'est ça, c'est à nous, en fait, de nous mettre à disposition, à nous en tant qu'organisme, mais aussi... la plupart des projets d'agriculture souvent viennent d'initiatives d'arrondissement, donc c'est aussi aux administrations et aux institutions de comprendre cette réalité-là et encore une fois de revenir à la base et revenir aux citoyens, citoyennes quand tu développes un projet, à la population à laquelle tu travailles. En fait. J'ai l'impression qu'en partant de là, mettons que si je devais définir le projet idéal d'agriculture urbaine, ou de rénovation urbaine par le végétal, c'est évident que dans mon équipe de travail, il y a un agent ou une agente mobilisateur, mobilisatrice, qui est là et qui, elle, fait un travail à tous les jours, qui connaît toutes les personnes qui sont présentes sur le site, avant même que le projet naisse. C'est vraiment cette démarche-là, c'est vraiment à faire avant même d'avoir planté le premier semis, mettons. C'est comme un an d'avance, deux ans d'avance.
Ouais, quelque chose, vraiment un travail en amont de mobilisation pour comme, premièrement, que le projet soit bien accepté au niveau de la population, mais aussi c'est ça pour les impliquer dès le départ, pas leur dire « by the way, il va y avoir ce projet-là, maintenant veux-tu t'impliquer? »
Exactement. Puis ça pose un petit peu, et je crois que je devance un peu tes questions, mais ça pose un peu la question de la concertation citoyenne, de comment est-ce qu'on fait des concertations citoyennes. Moi, je crois profondément à ce modèle-là. Par contre, je remets vraiment en question la façon dont on l'applique aujourd'hui. Et dans toutes les concertations que j'ai pu, auxquelles j'ai pu assister, on se retrouve davantage dans vraiment des rencontres dite d'acceptabilité sociale, mm-hmm. en disant, bah, regarde, ça c'est le plan, bah, on va passer par une concertation citoyenne pour dire qu'on a prévenu la population.
Pour faire bonne figure,
là. Pour c'est faire surtout, bonne figure, mm-hmm. clairement. Et pas du tout dans une démarche réflexive. Mm-hmm. Et de remise en question du projet, parce que ça arrive qu'on imagine un projet où nous-mêmes, on est convaincus vraiment de la valeur de ce projet, puis en fait, on la confronte à, mmh. à la... parce qu'on n'a pas pensé à faire notre mobilisation avant, donc on la confronte au moment où on veut sortir nos plans, et là, on se rend compte, bah non, ça fonctionne pas. Sauf que comme on a engagé toutes nos dépenses, comme on a fait des différents prêts, ou des mmh. locations, ou des je ne sais quoi... Bah, c'est trop tard pour arrêter le ouais. projet.
Tu veux que ça se fasse dans tous les cas.
Il faut que ça se fasse. Mm-hmm. Puis, la plupart du temps, il y a une pression politique aussi qui se fait parce que c'est souvent des demandes ou des mandats qui sont donnés par des arrondissements, là, très souvent. Et ben, les arrondissements, eux, ont leurs propres engagements aussi. Mm-hmm. Donc, tu peux pas vraiment arriver auprès de l'arrondissement en disant, bah, regarde, je suis allée voir la population et en fait, ton projet, il fonctionne pas. Mm-hmm. On a manqué un bout.
Tu sais, les milliers de dollars que tu as investis jusqu'à maintenant, tu sais, en ressources humaines ou whatever, ouais. ben finalement...
Finalement, ça s'y prête pas. Mm. Et ça, c'est comme... Ben, c'est sûr que c'est extrêmement, extrêmement difficile parce que ça demande... C'est ça, c'est... Pour moi, une concertation citoyenne se fait minimum un an à l'avance, puis c'est dès le départ. En fait, dès que tu commences à avoir une idée en te disant n'importe qui, que ce soit arrondissement, que ce soit organisme, que ce soit citoyen, peu importe la partie prenante, dès qu'il y a une envie de faire un projet collectif mm-hmm. et que c'est affiché comme un projet collectif, il faut que tu passes par des discussions, il faut que tu viennes challenger tes idées, il faut que tu regardes si vraiment tu réponds à un besoin. Pour faire ça, bah, tu dois t'adresser à la population locale. Mm-hmm. Et il faut aussi que tu sois prêt à te dire, ben non, mon projet n'a aucune valeur. Sur le papier, ça marchait bien, mais en mm-hmm. vrai, dans le milieu dans lequel je m'insère, ça marche pas.
Ou en tout cas, disons, ça pourrait aussi des fois juste avoir besoin de beaucoup de changements.
Ouais.
Tu sais, pour comme vraiment s'adapter à la population visée. Ouais.
Exact. Exactement. Là, tu te dis, ben, je sais pas, t'avais un projet visé, et là, tu te rends compte que, ah, ben, ça nécessite, j'en sais rien, de créer un collectif bénévole qui, à terme, ben, se réapproprier le projet. Ok, mm-hmm. ben, pour créer ton collectif bénévole, il faut que t'aies fait toute ta mobilisation, il faut qu'eux-mêmes soient formés à c'est quoi la pratique de l'agriculture mm-hmm. urbaine. Donc comment est-ce que j'entretiens un potager, tout simplement. Mm-hmm. Puis ça demande du temps, hein. Il y a des parcours de formation d'un 3 ans minimum, fait que mettons que c'est pas c'est sûr que c'est une certaine expertise aussi. Puis ouais, c'est ça, c'est donc c'est vraiment de repenser une temporalité qui souvent vient en confrontation mm-hmm. avec aujourd'hui notre société qui mm-hmm. tu veux du vite, du rapide, du rentable.
Mm-hmm. Ben c'est ça, tu sais, on parle beaucoup justement au niveau théorique de la chose depuis tantôt, c'est de qu'est-ce qui serait bien
ouais.
De faire puis qu'est-ce qui est optimum à faire en tant que tel dans le pratique. Est-ce que tu considères que les organismes locaux justement écoutent la population locale dans le développement de leur projet, ou tu trouves que peut-être il y a un manque à ce niveau-là? Puis là c'est ça, les organismes aussi tu sais ils font de leur mieux et tout, puis tu sais je tiens vraiment pas à dire que ils font mal leur travail, mais tu sais, de peut-être repenser justement aux concertations citoyennes dans le réel, dans la pratique, puis peut-être justement favoriser cette écoute-là, je sais pas, tu sais, des fois j'ai l'impression que justement l'arrondissement, la ville, les organismes veulent des résultats, puis ils veulent des résultats vite, parce que tu sais, justement, tu parlais de ça tantôt, mais tu sais, les subventions, t'as besoin de résultats. T'as besoin de prouver que, oui, l'argent que tu m'as donné a servi à quelque chose, peux-tu m'en redonner? Les organismes sont beaucoup soumis à ça, là, justement, cette précarité financière-là, de devoir tout le temps aller chercher, justement, ces subventions-là. Donc, c'est ça. Je réitère ma question. Tu sais, est-ce que tu penses qu'il y a un manque d'écoute de la population locale dans le développement de projets de la part des organismes et ou institutions? C'est ça, dans le concret?
Ben en fait, dans ton développement de questions, t'as répondu un petit peu. En tout cas, il y a un élément qui est extrêmement intéressant. Là, on parle uniquement d'organismes, mais dans les impulsions de projets d'agriculture urbaine, il y a aussi des collectifs citoyens qui se mobilisent. Où là, donc, on va pas en parler tout de suite pour répondre à ta question, parce que c'est une autre dynamique. Mm-hmm. Mais on y reviendra un peu plus tard, parce que je pense que là, c'est extrêmement intéressant. Mm-hmm. Pour ce qui est des organismes, c'est assez complexe parce que, en fait, on peut pas trop, je pense qu'on peut pas vraiment tirer de conclusion sur est-ce que les pratiques sont les meilleures pour les organismes sans se poser la question de c'est quoi un organisme aujourd'hui qui est en agriculture urbaine. Puis c'est quoi la réalité de cet organisme-là. Comme tu l'as très bien dit, la réalité de ces organismes, surtout quand ils sont dans le milieu plus communautaire, donc agriculture sociale, collective, pédagogique, sont clairement soumis à des très gros enjeux financiers, à une toute petite, petite équipe. Souvent, c'est peut-être une ou deux personnes permanentes qui sont à l'année longue dans les projets, avec quelques personnes qui viennent prêter main forte en
contractuel, saisonnier.
Exactement. En temps de saison, mettons. Donc plutôt sur l'été, mais ça va être des personnes de terrain.
Ouais. Puis encore une fois, c'est des personnes qui dépendent d'une subvention.
Exactement.
Emploi Québec, Emploi Canada.
C'est
voilà.
ça.
Ouais, ouais.
C'est exactement ça. C'est que c'est la fragilité, en fait, financière des organismes est essentielle à prendre en considération pour en fait regarder leur façon de faire. Et souvent, c'est pas un manque d'intention, c'est juste parce qu'il n'y a pas de fonds. Les subventions qui sont données aujourd'hui en agriculture urbaine sont majoritairement des subventions qui dépendent du Bureau du développement économique de la ville. Donc, juste là, c'est quand même très intéressant. La plupart des fonds ne viennent pas, par exemple, du Bureau de la transition et de la résilience écologique. La plupart des fonds viennent du développement économique.
C'est pour ça qu'il y a autant de comme fermes urbaines et tout qui prennent la place, parce que tu sais, il y a de la vente, il y a des revenus, il y a, tu sais.
C'est ça. Et c'est facile d'aller cocher tous les indicateurs effectivement qui sont demandés quand on fait des redditions de comptes, quand on fait des redditions d'impact de projet. Tu sais, ça a été comme la grande épopée de l'impact, de mesurer l'impact de nos projets. De façon générale, là, en économie sociale, là, c'est comme le nouveau mot. En fait, c'est le nouveau mot d'il y a 3 ans, mettons, où là, il y a comme eu un énorme, tu vois, énormément de formations, de cursus de formation sur comment mesurer son impact. Alors, c'est important, en un sens, parce que ça nous permet de valider nos pratiques. Est-ce que mon intention de projet, j'avais estimé que j'allais redonner une partie de mes semi-produits à la population pour qu'eux-mêmes partent leur projet. Combien est-ce que j'en ai redonné? Est-ce que vraiment je m'y tiens? Ça, c'est extrêmement bien parce que ça te permet justement de voir où est-ce que t'en es rendu. Mais quand ça devient des impacts de « Ok, mais combien est-ce que t'as... Comment, monétairement, est-ce que t'as contribué au développement ?» Impossible, parce que pour faire ça, il faut que tu aies une personne qui soit attitrée à mesurer ces impacts-là, qui soit attitrée à, comme, ok, donc mon semi, il me coûte tant, je le revends tant, je l'ai donné à tant de personnes, comme tout ce travail-là, il faut qu'il y ait une personne qui soit attitrée à ça. Puis, ça vient aussi avec les impacts de l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, on va le mesurer, ou en tout cas tel qu'il est perçu, ça va être sur comment est-ce qu'il influe sur les changements climatiques ou sur les infiltrations d'eau ou ce genre de choses.
Comment ça tu va veux pas évaluer être... ça tant que
Exactement.
Ça aussi, t'sais?
C'est très très compliqué de l'évaluer, encore plus, encore une fois, dans des équipes où il y a une ou deux personnes à l'année longue, qui font autant de la comptabilité, qui font autant de la gestion de projet, qui font autant de la gestion terrain, qui font autant de la mobilisation citoyenne. C'est des personnes extraordinaires qui ont des multiples casquettes, qui font aussi de la com, qui, en tout cas... Fait que,
Avec toute cette pression-là, justement, financière et sociale aussi, d'une certaine façon, c'est ça, après ça, c'est dur de, parfois, être 100% à l'écoute de la population locale, puis de prendre le temps de faire tout ce travail-là en amont et tout,
exactement.
Justement à cause de manque de personnel et tout. T'sais, c'est pas que les organismes ne veulent pas écouter la population, c'est juste que des fois, on a des comptes à rendre. Puis...
Exactement. Ouais. Puis on est pris dans une... C'est vraiment... On se mord la queue, mais c'est ça. On est pris dans une réalité où il faut faire vite, bien. La plupart des fonds sont dégagés en février, mars, pour un lancement de projet qui est en avril. Donc, où est-ce qu'elle est la part de mobilisation citoyenne? Si tu me dis, ok, on développe un projet de potager dans un parc, par exemple, mais que là, la durée du projet est sur 3 ans. Et puis c'est ton entente, elle est sur 3 ans. Ouais. Sachant que dans tes 3 ans, t'as 1 an de phase uniquement de mobilisation, où donc, disons, matériellement, il n'y a rien qui se développe. Mais quand matériellement, il y a rien qui se développe. Là, on se dit, bah oui, mais là, je peux pas mesurer ça. Je sais pas mesurer l'implication citoyenne. Comment est-ce que...
Ben, c'est ça, parce qu'en tant que tel, à la fin de cette année-là, t'as quand même une reddition de compte.
Ouais.
Puis là, la personne va faire, ah, oh, ben, t'as rien mis en place. Puis là, t'es comme, ben, en tant que tel, j'ai mobilisé, tu sais, 50 personnes qui sont vraiment comme dans le projet puis qui m'ont donné des idées.
Qui vont être moteur du projet, qui vont permettre la pérennité du projet, mais effectivement...
Ouais, mais tes ressources matérielles, là, t'es comme, ben, ça va aller à l'année prochaine.
Ouais.
Puis là, c'est... Ouais, ça amène beaucoup
de... Et là, c'est comme toute une... Donc, il y a vraiment une espèce de sensibilisation, d'accompagnement aussi des institutions ou des bailleurs de fonds là-dedans. Parce que je pense aussi, de la part des bailleurs de fonds, c'est pas eux-mêmes subissent des pressions, en fait, pour les redditions de comptes. Souvent, c'est pas la personne avec qui t'interagis qui veut te mettre des bâtons dans les roues dans ton projet. C'est qu'elle-même doit répondre aussi à des enjeux. Mais il y a tout un travail, ouais, de repenser nos projets, de comment est-ce qu'on les fait. Et comme tu dis, de la liberté aussi là-dedans, parce que les redditions de comptes et les mesures d'impact, c'est une très bonne chose pour limiter les dérives aussi, parce qu'il y en a. C'est quand même important d'avoir une transparence dans comment est-ce que les ressources financières sont redistribuées, comment est-ce que la gouvernance est faite aussi. Ça, d'ailleurs, ça déborde vraiment de notre sujet, mais la question de c'est quoi nos indicateurs est extrêmement importante. Pourquoi est-ce que dans les indicateurs qu'on doit soumettre une fois qu'on fait notre bilan ou notre reddition de compte, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justement toute cette démarche de gouvernance, de création de projets, de réflexion plus large de comment est-ce qu'on pense les projets et pourquoi c'est juste des chiffres qu'on doit rentrer?
Oui, donc tu sais, c'est ça, c'est vraiment un problème au niveau du système de l'obtention justement de ces ressources financières-là et tout. Si on revient aussi au niveau de la gentrification, c'est drôle parce que justement dans les redditions de comptes qu'on a à faire, c'est comme ah, est-ce que t'as touché une population locale qui était défavorisée? Puis là c'est comme ah, oui, tu sais, genre on les a aidés, on les a impliqués dans le projet, c'est vraiment le fun. Puis là hop, quelques années après, gentrification. Ouais. C'est drôle que justement ces ressources financières là soient données pour développer des beaux projets et tout, qui nous rushent un peu aussi dans le on va le faire le plus vite possible, puis comme avec les ressources financières qu'on a dans le présent, on réussit à un certain point à amener la population locale à s'intégrer, puis après ça, justement, il y a amélioration du milieu de vie, blablabla, puis là, justement, tout le problème, c'est comme une boucle qui...
Ouais, c'est une boucle sans fin, mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que la plupart des projets d'agriculture urbaine sont vus comme des projets temporaires. Surtout avec la réalité montréalaise de contamination de sol où la plupart des cultures se font hors sol, ce qui
c'est encore fait, moins
crée...
permanent.
Exactement. Ce qui crée quand même cette réalité perverse de bah oui, mais un bac, facilement je peux aller le déplacer sur un autre terrain. Alors que quand tu fais de la culture plein sol, on dirait qu'il y a comme une implication ou en tout cas une réticence à se dire ok, je vais goudronner complètement ce merveilleux potager, etc. Mais oui, c'est ça, c'est que sachant que les projets d'agriculture urbaine sont souvent vus comme temporaires, ça va être le temps, je sais pas, d'un stationnement, mettons, avant qu'il soit réhabilité. On se dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire pendant nos 3 ans d'attente de projet? Qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, on va demander à certains organismes d'aller occuper l'espace par du verdissement. Ouais, mais c'est parce que si tu l'imagines comme ça, c'est sûr que tu pars déjà en sachant que, bah, en fait, tu sais que tu vas créer de la gentrification parce que tu sais que tu vas automatiquement faire améliorer la qualité de vie et que toi, derrière, tu as un projet immobilier ou en tout cas de rénovation quelconque qui n'a rien à voir avec l'agriculture urbaine. Donc ça, c'est un vrai enjeu. C'est aussi, je pense, qu'un des très gros enjeux gentrification, agriculture urbaine, c'est la réalité d'accès au terrain. La plupart des terrains qui sont disponibles aujourd'hui sont des terrains privés. Donc c'est extrêmement compliqué. On s'entend que la plupart du temps, bah, quand tu es propriétaire privé d'un terrain, souvent c'est parce que, encore une fois, tu as une vision monétaire de ce terrain-là. je veux dire, moi, la première, là, je n'investirais pas dans un espace où je me dis, bah...
Je m'en fous,
je vais le laisser là, puis... Quoique, en fait, je vais même me contredire, parce que si je sais que ce que je vais créer, c'est une ressource de biodiversité, et que je vais laisser ça en friche, je vais laisser ce terrain-là complètement en friche, puis ça va être ça, mon intention... Mais pas parce que je vais avoir des dynamiques monétaires derrière, parce que je vais avoir des dynamiques environnementales. Donc c'est vraiment de se poser la question un peu de quel angle on a là-dessus. Puis encore une fois, c'est de comment est-ce qu'on fait nos projets. Il y a quand même des très beaux... à Montréal, il y a beaucoup de projets qui sont exemplaires, je trouve, dans la mobilisation citoyenne, dans l'implication, etc. Puis tantôt, je parlais des collectifs citoyens. Si on pense, par exemple, alors oui, c'est dans Rosemont, on parle d'un quartier qui est déjà quand même très, très alerte sur les dynamiques environnementales, mais il y a un projet qui s'appelle le Carré Casse-Grain. Je ne sais pas si tu vois, c'est vraiment 3-4 citoyens qui sont mobilisés au bout de leur rue. Il y avait un terrain vacant qui était là encore plus utilisé pour des déchets où il y avait vraiment rien.
Ouais, ça s'accumulait.
Exact. Puis là, les 3-4 citoyens, ce sont citoyens et citoyennes, se sont mobilisés, ont comme fait un cleaning de tout cet espace-là, et puis ont créé un espace potager et aussi un espace de diffusion culturelle. Mais c'est un terrain qui était privé. Donc il y avait une occupation, disons, illégale, puisque aucune autorisation. Le projet a été extrêmement fédérateur pour la communauté présente. Les 3-4 citoyens sont devenus une dizaine de citoyens qui font aussi les corvées de ruelles, etc. Parce qu'adjacente, il y a la ruelle, il y a
cette ruelle verte.
Qui est maintenant devenue en ruelle verte, qui ne l'était pas avant le projet du carré. Sauf que le prometteur immobilier a entendu parler de ce projet parce qu'il était présenté un petit peu comme exemple, puis il y avait de plus en plus de communication qui pouvait se faire dessus, puis les gens en parlaient, etc. Donc c'est arrivé aux oreilles du promoteur immobilier, qui s'est pointé un matin en passant au bulldozer l'ensemble du projet, en mettant des palissades en bois pour empêcher l'accès. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai conflit entre les deux qui se passe.
Donc, mais ils faisaient rien avec, de toute façon.
Ils faisaient strictement rien avec. Ça faisait des années que cet espace-là n'était pas du tout occupé. Il n'y avait pas de projet en cours. Donc là, ça a comme... Et ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est que ça a pris une ampleur telle dans disons, dans la fédération de la communauté du quartier, que l'arrondissement est rentré un peu dans ce projet-là. Et aujourd'hui... je ne sais pas si j'ai réellement le droit en fait, de partager ce genre d'informations, mais je pense que oui. Aujourd'hui, l'arrondissement a entamé les démarches pour redevenir propriétaire de cet espace-là. Pour ensuite, on l'espère, le redonner au collectif citoyen, qui n'est pas du tout un organisme ou quoi. C'est vraiment juste des citoyens qui décident de se mobiliser.
C'est drôle parce que justement, des collectifs comme ça, là, on parle de Rosemont qui en ce moment est un quartier aisé, là, on va pas se le cacher, mais tu sais qu'il y a, c'est ça, moi j'ai grandi dans le nouveau Rosemont, tu sais, puis il y a 20 ans, disons, c'était pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui du tout, là, tu sais, c'était grosse population immigrante parce que comme c'était dans les maisons les plus abordables et les plus proches, tu sais, disons, qui avaient disponible et tout, puis justement, tu sais, c'est là que ça montre que non, c'est pas vrai que les citoyens et citoyennes veulent juste vivre à côté d'une décharge ou à côté d'une friche dévalorisée et tout. Parce que justement, après ça, t'as le guérilla gardening, le jardinage de guérilla, je sais pas comment le...
jardinière.
Voilà. Puis, tu sais, justement, les corées d'arbres à Rosemont, ça a commencé comme ça. Ça a commencé parce que les gens étaient tannés de juste voir de la terre nue avec des mauvaises herbes qui poussaient. Ils ont décidé de commencer justement à faire des projets potagers et tout pour embellir leur espace parce qu'ils étaient tannés d'être à côté de quelque chose qui était laid, tu sais. Puis là, vu que, justement, tu sais, les citoyens et citoyennes ont commencé ça, là, l'arrondissement a fait comme, ben écoute, ce sera un beau projet à prendre sous notre aile. Mm-hmm. Puis là, tu sais, justement, là, c'est comme un projet qui est comme vraiment connu dans Villeray, Rosemont, ouais. Je sais pas aussi, sûrement le plateau, mais...
Ouais, mais c'est drôle, tu mentionnes pour les carrés d'armes, mais en fait, la naissance même des jardins communautaires vient aussi de la guérilla jardinière, qui vient des années 70 par Liz Christie à New York. Dans le fond, elle, c'est une artiste qui vit dans un New York complètement délabré suite à la crise économique et qui, en se promenant dans les multiples terrains vagues où l'ensemble de la population a fui, en fait, ce New York-là, et où les projets d'immobilier se sont tout arrêtés, New York complètement est paralysé. Donc, il n'y a plus rien qui se passe, c'est comme un espèce de no man's land. En tout cas, on dirait que j'ai vécu. Non, oui.
je suis née à New York.
les différents écrits et reportages et autres, vraiment, t'as cette vision presque post-apocalyptique. Là, tu vois, y a plus rien qui se passe. Ne reste que les pauvres qui n'ont pas pu, se déplacer dans des quartiers plus résilients économiquement, disons. Et donc, Liz Christie déambule dans cet espace-là et remarque au milieu d'un tas de décharges sur un espace vacant qu'il y a des pieds de tomates qui ont poussé, en fait, qui ont poussé des graines de tomates qui restaient là et qui pourrissaient là.
Ah.
Et là, elle s'est dit, wow, attends, là, il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement extraordinaire qui est en train de se passer. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, c'est Liz Christie, en revenant dans sa communauté, qui se dit « Ok, est-ce qu'on peut pas créer justement ces fameuses bombes semences qui sont un peu le début, mettons, de la guérilla jardinière ?» En fait, non. Le début de la guérilla jardinière, c'est à partir du moment... Je pense que c'est la première fois où une personne s'est dit « Oh, je vais aller semer quelque chose sur un terrain qui ne m'appartient pas.
Mm-hmm. »
Donc, dès que tu as déposé une graine à un endroit dont tu n'avais pas la propriété... tu fais acte de guérilla jardinière.
Mm-hmm.
Mais pour se concentrer sur Liz Christie, c'est ça donc. Bombe de semences, petit à petit, en fait, elle se réapproprie, et avec ses comparses, ils se réapproprient cet espace-là, cette friche, et ils en font quelque chose. Et elle a ce grand rêve de se dire, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas en faire réellement un potager ? Et donc, c'est quand même des longues discussions qui se passent avec l'administration new-yorkaise, savoir si oui ou non elle peut l'occuper. Ils le font quand même, ils prennent la liberté de le faire, et puis bah, en fait, en voyant que oui, il y a un vrai espace de production qui est en train de se faire, de production alimentaire, mais aussi de liens sociaux qui se créent, une vraie communauté qui se génère, solidaire, et ben a lieu le premier jardin communautaire de New York.
Retrouvez l'équipe de l'Écho de la Pointe aux Prairies et ses invités toutes les 1er et 15 du mois pendant la saison estivale. Merci de votre écoute.